Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et éthique.
Bonjour à tous. Bienvenue à l'activité d'aujourd'hui dans le cadre du séminaire de traduction des sciences humaines et sociales que je donne. Donc, je vais présenter nos deux conférenciers aujourd'hui. Claude est éditeur et coordonnateur de fabrication depuis plus d'une trentaine d'années dans les domaines du livre, du magazine, de la publication militante. Il est, je pense, le fondateur des éditions de la rue d'Orion, ce dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, on aura une courte présentation de Philippe Blouin, traducteur, candidat au doctorat en anthropologie à l'Université McGill, où il étudie la philosophie politique Kanyengeaga, a publié des essais dans Stasis, Polar et le South Atlantic Quarterly, et a traduit 8 livres aux éditions de la rue d'Orion, aux éditions de l'Éclat, chez Lux Éditeur et à Divergence. Donc, on a une discussion ensemble, une présentation, ensuite une discussion ensemble, puis avec le public. L'idée de l'activité d'aujourd'hui, dans le cadre de l'Observatoire de la traduction autochtone, c'est vraiment de réfléchir à les enjeux de l'édition des essais et de la traduction des essais au Québec, en particulier des essais qui traitent des enjeux autochtones. Et on a voulu inviter deux personnalités importantes de l'édition et de la traduction au Québec. Et
je laisse la parole à Claude.
Merci. Je voudrais corriger, je ne suis pas vraiment une personnalité importante. Merci au Centre de recherche Figura et à l'Observatoire de la traduction et à René pour l'invitation. Donc, oui, je m'occupe des éditions de la rue d'Orion. Mon nom, c'est Claude Rioux. Peut-être pour situer un peu mon parcours qui fait que je suis éditeur de livres aujourd'hui, en fait, c'est surtout au départ de dire on aime la littérature, la lecture et les livres, c'est nécessaire, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour faire ce métier-là. Ce qui m'a amené à ça un peu au départ, c'est plutôt l'aspect, franchement, de l'agitation comme étudiant à l'UQAM, la nécessité de faire des tracts, des journaux, des affiches, des trucs comme ça. C'était toujours moi qui se tapais l'infographie de ce genre de choses-là. Et dans les années 90, j'ai travaillé en Amérique centrale, en particulier dans des zones de conflit comme observateur des droits de la personne dans les zones de conflit. Puis j'avais la nécessité de faire des rapports et des communiqués de presse et des autres actions urgentes de publications diverses qui m'ont amené à maîtriser des outils et qui m'ont amené à vouloir transmettre de l'information avec une certaine urgence dans la nature même du travail que je faisais. Je pense que ça se reflète quand même aujourd'hui dans les éditions de la rue d'Orion, dans la mesure où on a souvent des textes très politisés qui mentionnent des situations où l'action est nécessaire, etc. Donc, au-delà de la réflexion, il y a tout le temps cette idée-là d'une intervention. Puis ensuite, j'ai travaillé dans différents magazines et maisons d'édition et jusqu'à fonder les éditions de la rue d'Orion. Et c'est pas mon seul métier parce que je suis aussi dans le domaine du logement associatif. Donc, ce qui me permet en fait de tenir à flot une maison d'édition qui fait pas vraiment ses frais. Puis je pense que je vais expliquer un peu l'aspect plus technique. J'ai préparé quelque chose qui peut-être traite plus de méthodologie, d'outils, de méthodes de calcul, tout ça, puis qui pourrait peut-être, j'espère que ça va vous intéresser, de connaître un peu cet aspect-là, un peu de la plomberie de maison d'édition. Puis juste une autre façon de situer le travail. Donc, il y a la notion un peu de périphérie, je dirais, dans le sens que le centre de la littérature française, c'est Paris, hein, puis on est à Montréal, fait qu'on n'est même pas en France, puis on est en Amérique du Nord. Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est important dans la situation. Puis, il y a aussi une périphérie par rapport à un système subventionnaire typiquement canadien-québécois, dans lequel on n'est pas finalement inscrit. Quand j'ai reçu l'invitation de René, j'ai dit, j'ai quelque chose à dire, mais je ne suis peut-être pas la personne la plus pertinente, étant donné le métier là, que vous allez faire ou que vous faites déjà. Il y a des maisons d'édition qui vont avoir un accès plus facile, rapide, privilégié à une rémunération, à un auditoire, etc. Mais il me dit, ben c'est quand même intéressant de voir différents aspects. Donc, je vais vous apporter le mien. Le catalogue des éditions de la Rue d'Orion, il comporte une quarantaine de titres actuellement, fondé en 2012. Il y a 17, histoire, philo, critique sociale, féminisme, poésie, quelques romans. Il y a 17 titres en français et 25 traductions de l'anglais essentiellement, donc 19 titres de l'anglais, 3 traductions du chinois, une traduction du grec, elle est là, sur la table, une de l'espagnol, une du portugais. Fait en ce sens-là, on est un peu dans la norme parce que, comme je l'ai relevé ici, il y a une étude de la BANQ en 2021 qui disait qu'en 2017, il y avait eu 870 traductions sur 1126 imprimées au Québec qui étaient des traductions de l'anglais. Donc, essentiellement, on traduit de l'anglais. Ça doit être une statistique qui doit ressembler d'un pays à l'autre. On ne doit pas être très original en ce qui concerne ça. Au Canada, essentiellement, donc la traduction est soutenue par le Conseil des arts du Canada. Dans l'histoire de ce système de subvention-là, ce qui était le plus important au départ, c'est à partir des années, fin des années 60, 70, avec Pierre-Éliott Trudeau qui arrive, c'est la notion de bilinguisme, hein, de renforcer l'aspect bilingue du Canada, donc de favoriser la traduction dans les deux langues officielles, du français à l'anglais, de l'anglais au français. Les langues autochtones, ça, je ne m'avancerai pas, je pense que vous connaissez le sujet mieux que moi. Mais en fait, ce qui est le plus évident, c'est que c'était d'encourager le bilinguisme plus que la littérature et d'encourager aussi le rayonnement de la culture canadienne, je dirais plus dans un sens industriel, comme on voudrait, par exemple, vendre plus de chars ou d'autres biens que, à mon avis, faire rayonner la culture comme telle. Mais ça serait un autre débat. Fait que la traduction au Canada, en général, quand on fait une traduction, c'est l'éditeur qui fait la demande de soutien à la traduction. Je pense qu'il existe un soutien pour les premières traductions pour les étudiants et étudiantes, mais je n'ai pas trouvé le moyen d'y accéder. Mais en général, c'est les éditeurs ou la maison d'édition qui fait la demande. Et dans ce sens-là, il faut que la maison d'édition soit déjà dans le système subventionnaire. Le système subventionnaire lui-même est assez complexe. En général, quand un éditeur est subventionné, il y a une panoplie de subventions. Il y a Patrimoine canadien, qui est un programme qui relève, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Sheila Copps. C'était une politicienne canadienne assez extraordinaire, qui a fondé ce programme-là pour encourager l'industrie de l'édition. Ça l'a donné un gros coup de main, mais en fait, c'est un peu une subvention typiquement industrielle. C'est-à-dire que quand les éditeurs ils sont un peu accros à ce genre de subvention-là, c'est que tu imprimes, tu imprimes, tu imprimes, tu fais des piles dans les renombrés, puis les invendus, tu les pilonnes, puis ça roule. Donc, c'est un système qui fait circuler du papier, mais qui n'engendre pas nécessairement des ventes. C'est surtout une subvention à la fabrication. Et il y a le Conseil des arts du Canada, qui est une subvention qui évalue un programme éditorial par les pairs, etc., donc, qui est un peu plus intéressant d'un point de vue littéraire. Il y a le ministère de la Culture du Québec, c'est la SODEC, Société de développement des entreprises culturelles, qui offre un programme. Il y a aussi Revenu Québec, qui a des crédits d'impôt à la fabrication de livres. Et il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec. Là, c'est plus artistique, donc c'est plus des projets spéciaux, c'est un peu plus à la carte, on va dire, comme subvention. C'est tout l'écosystème, en fait, quand on arrive à être inscrit dans toute la panoplie, on peut quand même, en général, avoir de 2 à 5 salariés, par exemple, à temps plein, pour faire rouler une maison d'édition, ce qui est quand même intéressant. Donc, nous, on n'est pas dans ce système-là pour toutes sortes de raisons. C'est pas essentiellement une raison, on va dire, anarchiste qui dirait « Ah, c'est l'État, j'en veux pas, on fait de nos affaires. » Je pense que l'argent public, ça serait bien d'en avoir une part aussi. Par contre, il y a quand même des rigidités qui vont avec ça, notamment juste faire des demandes de subvention à toute cette panoplie de subventions-là, pour l'avoir déjà fait, c'est presque un travail à temps plein. Là. Entre demander des subventions, faire le suivi, faire la reddition de compte et la retourne, t'en sors pas, puis t'as une personne à temps plein qui fait ça. Et il y a quand même des coûts importants. Là. C'est comme c'est une bébite qu'il faut nourrir à coups de comptable, mission d'examen, tout ça. C'est quand même une machine qui peut coûter quand même jusqu'à 4, 7, 8 000 piastres par année, juste donc pour faire partir la roue de ça. Puis disait, bon, ben mettons les éditions de la rue d'Orion, on embarque dans le système. Il y a quand même des coûts importants. Donc, comment financer une traduction dans un contexte où on n'a pas accès à cet ensemble de subventions-là? Bien, il y a celle qui va vous intéresser le moins, la traduction bénévole. Parce que ça arrive, hein, parce que surtout comme éditeur engagé, il y a des gens qui vont spontanément venir nous voir et dire « Moi, je veux absolument traduire ça. C'est un livre important, il faut que ça paraisse. Je vais le faire. Puis, est-ce que vous voulez le publier? » Fait que ça arrive qu'on dit oui. Il y a des traductions comme ça. Il y a des gens qui veulent traduire un premier livre pour avoir un premier nom, puis se faire connaître. Puis ils se disent, de toute façon, peut-être qu'ils l'ont traduit dans leur maîtrise. Donc, ça existe, la traduction bénévole. C'est pas quelque chose qu'on sollicite, évidemment. J'ai jamais appelé personne pour lui dire, veux-tu traduire ce livre-là gratuitement? Il y a aussi l'autofinancement. Je vais expliquer un peu plus tard, si j'ai le temps, comment ça peut fonctionner. Mais en fait, une maison d'édition peut dire, ben ça coûte 15 000 piastres, mais j'ai 15 000 piastres, puis je te paye. On finance la traduction comme ça. Il y a la subvention par le Centre national du livre, parce que ça, c'est en France. Je vais expliquer un peu plus loin, mais en fait, l'approche canadienne, comme je l'ai dit, c'est une approche très auto-centrée sur la construction de l'identité canadienne, de la traduction comme étant un de ces moyens-là. Mais en France, en fait, le Centre national du livre, il finance des traductions. Le seul but, c'est que ça paraisse en français. Ça peut être un livre écrit au Vietnam, traduit par quelqu'un qui est de nationalité états-unienne. Mais pourvu que le livre paraisse en français, si en soi le projet se tient, qui est intéressant, bon, il y a toutes sortes de critères. Donc ça, au Canada, c'est impossible. Au Canada, on ne peut pas subventionner un livre qui n'est pas écrit par une Canadienne ou un Canadien. Donc ça, il y a le Centre national du livre. Il y a aussi le rachat de droits, c'est-à-dire que, par exemple, dans notre catalogue, on a une traduction qui date des années 50, on va dire, de Spartacus, de Howard Fast, le livre qui a donné le film de Stanley Kubrick, là, qui raconte la révolte des esclaves. Traduction des années 50, totalement épuisée, personne ne le vendait, tout ça. Nous, on retrouve le traducteur, on lui demande « Est-ce qu'on peut te la racheter? » Oui, on peut ressusciter un texte comme ça en rachetant des droits d'une édition épuisée ou d'une édition que le détenteur des droits décide de ne plus publier, ça arrive. Par exemple, avec un livre qu'on va faire paraître dans 2 mois, qui s'appelle « Le nettoyage ethnique de la Palestine », d'un historien qui s'appelle Liliane Papé, traduit. Et les éditions Fayard ont décidé de ne plus diffuser le livre. Puis là, ben, le traducteur a dit « Moi, j'ai un contrat avec vous qui dit que si vous ne diffusez pas le livre, je récupère les droits de la traduction. » Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous êtes familier avec les clauses contractuelles et tout ça. Donc, la personne récupère les droits de son travail et nous, on l'achète. Puis on republie le livre le 30 avril en librairie. J'en profite pour faire de la pub. Sociofinancement, souscription, prévente, un autre moyen aussi de financer des traductions. On annonce la parution, on dit acheter une copie à l'avance, ça va nous aider à ramasser des fonds, payer la traduction. Ça a des bons côtés, ça a des moins bons côtés parce que si on dit qu'on a vendu, par exemple, je prévends 200 copies d'un livre, ça fait 200 livres envoyés par la poste, ça fait 200 livres que je ne vendrai pas en librairie après. Ces gens-là ne le rachèteront pas en librairie, donc c'est quand même à bien évaluer le sociofinancement, la souscription, la prévente, tout ça, c'est des méthodes intéressantes, mais avec des limites. En ce qui me concerne, donc, on utilise tous ces moyens-là, évidemment, comme je l'ai dit, à part celui d'une subvention conventionnelle du Conseil des arts du Canada. Comment obtenir le droit de publier? Donc, pour, admettons, traduire le livre, c'est une chose, mais il faut avoir la permission de publier le livre, évidemment. Donc, ça implique l'achat du droit de la traduction de l'ouvrage original dans la langue cible, le français. Et là, il y a toutes sortes de moyens d'obtenir ce droit-là. J'en nomme quelques-uns. Il y a ce que j'appelle l'achat post-fabrication, c'est-à-dire que quand on va dire, dans le domaine de l'édition, qu'on a des contacts un peu partout, on peut apprendre avant l'apparition prochaine d'un ouvrage, puis dire à un autre éditeur, est-ce que je peux acheter le droit de faire une édition canadienne du livre que tu vas faire apparaître en Europe? Donc ça, on le fait à plusieurs reprises, pour toutes sortes de livres. Là, je ne pourrais pas donner des exemples de chacun de ces méthodes-là parce que ça prendrait trop de temps. Mais donc, d'acheter de la licence pour un territoire donné, souvent il faut demander, le détenteur original du droit de la traduction va demander à la personne, soit l'autrice ou soit son agente, ou etc., la permission de céder ce droit-là. Donc ça, c'est un des moyens. Il y a l'acquisition du droit directement. Donc, par exemple, on a fait paraître cette semaine un livre là, qui est sur la table là-bas, qui est de Sarah Ahmed, « Vive en féministe ». On approche l'autrice ou son agence, puis on dit « on veut acheter le droit de publier le titre en français ». À ce moment-là, il faut acheter ce droit-là pour le monde entier, c'est-à-dire qu'on fait un investissement important. Et après ça, c'est nous autres qui allons céder une partie de ce droit-là à une maison d'édition en France. Parce que nous, comme édition de la Rue d'Orion, on n'a pas de distribution en France pour toutes sortes de raisons, mais c'est surtout parce que on ne veut pas gérer des stocks de livres par bateau avec des retours et des devises et tout ce que ça comprend comme complication. Donc, quand on trouve qu'un texte est intéressant pour un lectorat en Europe, on va trouver une maison d'édition, puis on va faire affaire avec cette maison d'édition-là, puis on va céder l'exploitation du territoire européen pour un titre. Et notre façon favorite, c'est le troc et la fabrication, c'est-à-dire que je vais donner un exemple d'un livre récent de Mariam Kaba qui s'appelle « En attendant qu'on se libère », donc qui est un livre qu'il fallait payer assez cher l'achat de la traduction. Et assez cher aussi la traduction elle-même, peut-être 16 ou 17 000 euros, donc 22 000 $. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'allie avec une maison d'édition en France, en l'occurrence Hors d'atteinte, qui a un peu plus de moyens que nous, qui est aussi une maison, on va dire, alternative, mais avec un peu plus de moyens. Et cette maison d'édition-là met l'argent, paye la traduction, s'occupe de tout ça. Puis, en échange, nous, on va tout négocier les contrats, on va réviser la traduction, on va faire la révision linguistique, la préparation de copies, toutes les étapes de l'édition, même la maquettage, tout ça. Donc, en temps, j'ai peut-être mis ça, un bon 15 000 euros sur ce genre de travail-là. Donc, on essaie de favoriser justement la définanciarisation de nos échanges, essayer qu'il n'y ait pas trop de banques qui fassent de l'argent avec nos efforts. Donc, ça donne des bons résultats la plupart du temps. Mais je voulais juste vous donner un exemple un peu d'un certain nombre de difficultés. Justement, la question de Sarah Ahmed, qui, on va dire, voilà 4 ans, je lisais le nom de Sarah Ahmed dans plein d'ouvrages en français qui la citaient, mais tout le temps, jamais traduite. Donc, on fait des efforts et finalement, on réussit pour 1500 euros, d'acheter des droits pour le monde entier de Phénoménologie Queer. Et on est allié avec une maison d'édition en France qui s'appelle Le Manuscrit, qui est une maison d'édition totalement inconnue. Et donc, on fait le travail, on fait la traduction et tout ça, et le livre paraît. Puis, tout de suite après, quelques mois, pratiquement en même temps qu'on faisait le premier. On a tout de suite entamé les négociations pour le deuxième, mais déjà, l'agent de Sarah Ahmed flairait la bonne affaire. Puis là, ça coûtait 2 000 euros pour celui qu'on fait paraître cette semaine. Et entre-temps, quand on a fait les démarches pour aller chercher le troisième qui est à l'écran là, qui est le Feminist Killjoy Handbook, manuel de rabat-joie, on nous a dit « Ah, mais il va y avoir des enchères. Les droits vont être aux enchères. » On a dit « Ben nous, on met 2 500 $ puis on n'a plus jamais entendu parler. » Fait que là, c'est la découverte qu'il a acheté et qu'il fait paraître dans un mois et demi, parce que nous, ça nous a pris 2 ans traduire le livre, et eux autres, et probablement qu'ils l'ont traduit en 5-6 mois. Et juste pour vous donner une idée des moyens, la découverte, c'est 130 titres par an. Ça appartient à un conglomérat qui a 58 marques de maisons d'édition. Je ne pourrais pas toutes les nommer. Et qui appartient à Vincent Bolloré, qui est propriétaire de CNews et qui est aussi propriétaire de Mathieu Bock-Côté. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça arrive que dans notre position, on fait les premiers pas, on met en place un certain nombre de choses, puis on fait qu'à un moment donné, ça nous échappe parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin.
Salut tout le monde. Je voulais commencer avec par certaines idées qui avaient été avancées en 1724 par Jean-François Lafitteau, qui est le célèbre jésuite qui avait écrit Les mœurs des sauvages américains et qui avait fait part, en fait, c'était dans la conclusion de son livre, de certaines contradictions qu'il avait rencontrées en traduisant les mots des Iroquois avec lesquels il vivait depuis quelques années. D'une part, Lafitteau parle dans sa conclusion de la langue comme d'une chose qui est purement arbitraire, il dit, suggérant que les mots ne sont que des signes adoptés pour représenter les choses auxquelles ils ont été attachés, ne signifiant rien seul qu'autant qu'il est convenu qu'ils ont un tel sens. Et l'on reconnaît l'arbitraire du signe qui va être si célèbre dont la grande possibilité grâce à Saussure, le nominalisme, tout est convention. Mais d'un autre côté, Lafitteau s'interrogeait aussi dans la même conclusion sur la possibilité que les mots auraient en réalité une connexion essentielle avec les opérations de l'âme et les objets sur lesquels tournent nos pensées. Ce qui semble une idée contradictoire. Chaque langue étant porteuse d'un paysage psychique et naturel qui lui est propre. En même temps, Lafitteau soutenait aussi, suivant une intuition que, en fait, là, pour le coup, c'est Jacobson qui va canoniser cette intuition-là quelques 300 ans plus tard. Lafitteau soutenait aussi que toutes les langues peuvent exprimer toutes les choses ou toutes les choses peuvent s'exprimer dans toutes les langues. Il n'y a rien sur quoi nous ne puissions parler et raisonner dans n'importe quelle langue. Par conséquent, disait Lafitteau, il devrait y exister des équivalents par lesquels des langues structurellement éloignées peuvent se rencontrer. Mais Lafitteau a arrêté son très long texte, son livre à 2 volumes, à ce moment-là, et n'a pas suggéré de manière de s'y prendre. Quand même, il a laissé en héritage, comme proto-ethnographe linguiste, le problème théorique fondamental qui va préoccuper l'anthropologie linguistique pour des années à venir, le problème de l'intraduisible. Et donc, c'est de ça que je veux parler un peu ici. Je veux parler de la difficulté, par exemple, de traduire la réalité Ganyangiraga traditionnelle dans ce livre de la Mohawk Warrior Society à travers cette référence aux Iroquois chez Lafitteau. À vrai dire, mon travail de traduction a commencé d'abord par une traduction des réalités Mohawk pour moi-même. Je les ai rencontrés en 2015 par un espèce de hasard. Finalement, c'était des amis de New York qui ont aussi collaboré au livre. Matt Peterson, Malik Razamni, qui ont aussi édité le livre. C'est ça. C'est à travers eux, donc, que j'ai rencontré des Mohawks de Ganawake et d'Akwesasne, avec lesquels je me suis lié d'amitié, que j'ai vraiment consacré toute mon attention depuis lors à comprendre leur réalité. Et donc, ce livre-là, c'est un peu un effort de reprendre le fil même de l'évolution cognitive qui permet de comprendre les réalités étrangères en développant une espèce d'appareil éditorial, parce que c'est pas seulement que le livre traduit des termes Ganyangiraga en anglais et ensuite ça a été retraduit en français, c'est tout l'appareil éditorial du livre vise à traduire cette réalité-là de la manière dont il en parle en suivant le même cheminement par lequel j'ai commencé à comprendre de quoi il parlait exactement. À travers toutes ces références qui, pour des Mohawks, peuvent sembler évidentes, vu que c'est leur vie, mais que pour des Québécois, par exemple, comme je le suis, paraissent pas évidentes. Et donc, c'était ça l'effort. Puis disons, ça a été un gros effort cognitif aussi, parce que j'ai juste été éberlué d'étonnement quand j'ai compris que les artisans de la Mohawk Warrior Society, qui ont ravivé cette résistance des familles traditionnalistes Mohawk à la fin des années 60-70, mais en fait, c'est les mêmes gens qui jouent encore un rôle de... Ils disent « knowledge keepers » en anglais, je sais pas comment on traduit même ça en français, là, des gardiens du savoir. C'est les mêmes individus qui sont connus à travers la Confédération iroquoise comme parlant le mieux la langue et surtout les vieux mots qui, en fait, sont utilisés dans les cérémonies puis qui ont... Puis en fait, c'est vraiment des Heidegger du Ganyengeha. Ils déconstruisent sans cesse leur langue. C'est des étymologues de leur propre langue. Et donc, ça, c'est quand même un élément important aussi. Heureusement qu'à notre époque, les gardiens du savoir autochtone sont bien au fait de comment résonnent les Blancs aussi, puis peuvent nous expliquer peut-être plus qu'il y a une centaine d'années ce que veulent dire leurs vieux mots dans une manière où on peut comprendre de quoi ils parlent. Puis même, il y a un raffinement continuel aussi, même entre certains matériaux édités qui sont trouvés dans le livre ici, qui sont les œuvres de Garunyak Tadjé, Louis Hall, qui a peint le drapeau Warrior ici, le drapeau de l'unité, mais qui était un peintre prolifique et un écrivain prolifique aussi, pamphlétaire. C'est ça, donc il y a entre autres ses écrits ici, puis tout l'appareil éditorial qui inclut une carte, un glossaire, une frise chronologique d'événements important dans la résistance des Mohawks, mais vise un peu à rendre ses propres textes compréhensibles, les textes de Garunyak Tadjé. Mais depuis, lui, il était plus présent, je pense qu'il est mort en 94, il représente une certaine génération, il est vraiment un mentor de tous les gens, disons, c'était l'aîné un peu des jeunes qui ont fondé la Warrior Society à l'époque. Mais il y a certains termes que les gardiens de savoir actuels n'utilisent plus, que lui utilisait à l'époque. Par exemple, il parlait de fonder une nation autochtone, tout ça. Puis c'est un mot qu'ils n'utilisent plus maintenant. Ils disent « on est un peuple, on n'est pas une nation ». Nation, c'est un terme occidental qui vient de la naissance, alors que nous, notre appartenance est plutôt dans... vient avec la pratique plutôt qu'avec l'appartenance du sang ou de la parenté immédiate. Donc c'est ça, il y a un raffinement continuel aussi des gardiens de savoir qui eux-mêmes proposent des gloses élaborées pour traduire leur réalité. Mais tout de même, pour revenir à ce que Lafito disait au début, cette espèce de polarité en anthropologie linguistique et en linguistique en général, ben, vous devez être au courant, je pense que vous êtes tous dans le cours ici de traduction, mais toute l'hypothèse Sapir-Whorf, qui est un peu le bonhomme 7 heures de la linguistique. Et ça, c'était deux types, Benjamin Whorf et Edward Sapir, des anthropologues dans les années 30, 40, 50, qui, ben, c'était Benjamin Whorf qui avait travaillé avec des Hopi, puis s'était rendu compte à quel point leur langue, en fait, était intraduisible en anglais, parce que, notamment, des notions de temporalité, tout ça, qui n'avaient aucun rapport avec le passé et le futur, dans le sens... indo-européen, puis lui en était arrivé à suggérer que leur perception même du monde est différente, ou même que le monde dans lequel ils vivent est différent. Ils avaient développé ça ensemble. Ça semble comme une hypothèse intéressante en tant qu'anthropologue non-linguiste. Moi, je trouve ça bien correct, mais ça a créé des guerres en linguistique, avec notamment l'école chomskienne qui, suivant cette intuition de ce slogan de Jacobson que tout peut se traduire dans toutes les langues, qui ont plutôt cherché à développer une grammaire universelle, une traductibilité de chaque mot à l'aide de big data. Là. C'est un truc très machinisé aujourd'hui, cette équivalence-là. C'est ça qui a été un peu l'héritage de ces débats-là sur entre le conventionnalisme et l'adhérence du mot à la chose, hein, du mot à un monde. Et donc, comment faire, par exemple, comme traducteur, quand on accepte l'impossibilité de trouver une équivalence mot pour mot d'une traduction? Ben, c'est là où c'est une tâche un peu, en tout cas comme moi je l'ai expérimenté, qui est très de, pour reprendre un intraduisible, de patchwork. Ou est-ce qu'il y a un équivalent en français du patchwork, disons, de... cours de pointe. Ouais. Ça traduit pas exactement la même chose. Mais c'est ça, ouais, un travail à tâtons, par exemple, où à force d'ajouter un peu des couches de complexité, il y a quand même moyen, parce que c'est quand même ça, on va pas juste jeter l'éponge en disant c'est impossible de traduire, il y a rien à faire, il y a quand même moyen de traduire mieux. c'est en ajoutant ces couches-là de glose pour arriver à une espèce d'approximation de ce que ça pourrait bien vouloir dire, au moins une idée de ce que ça pourrait vouloir dire. Puis c'est ça que je voudrais pour le restant de cette intervention, c'est d'explorer trois aspects de ce que ça implique, de ce qu'il faudrait pouvoir traduire, puis ce qu'on a cherché à faire dans ce bouquin-là, notamment dans le glossaire. Trois plans, par exemple, sur lesquels la traduction doit pouvoir en tenir compte. Par exemple, le premier serait la structure linguistique elle-même. Et là, dans le cas du Ganyengeha, même le terme de Ganyengeha, maintenant, c'est comme rendu ça, le terme officiel, mais les traditionnalistes avec qui je travaille refusent ce terme-là, vu que, en fait, ça voudrait dire la manière du silex. Puis ils disent non, mais ça vient pas de la terre, c'est-à-dire, parce que quand on dit Ganyengehaga, c'est les gens de la terre du silex. Puis d'ailleurs, s'ils quittent la terre du silex, c'est plus des gens de la terre du silex, c'est vraiment, ils se retrouvent sur ce territoire-là. Mais ils utilisent plutôt Umweumweneha, qui serait la langue du peuple originel ou du peuple de la création qui se renouvelle à jamais. Puis là, on peut rajouter des gloses encore avec toutes les connotations qu'il peut y avoir dans les phonèmes d'un mot comme Umweumwe, ou en fait, c'est un peu cet effort qu'en comparant ces phonèmes-là avec d'autres mots dans lesquels ils se retrouvent, on voit un peu, on élargit le spectre de signification de ce que le terme veut dire. Par exemple, dans ce truc de la création à jamais, le peuple de la création à jamais, dans Umwe, ce geste de la création qui continue comme un cycle vital. Mais ça se retrouve aussi, par exemple, dans les mots sur le pain, parce qu'ils ont ce concept de le grand pain blanc où a été enterré la hache de guerre, d'où la célèbre expression « l'arbre de la paix », tout ça. Puis en fait, le terme veut comme techniquement dire « l'arbre dont les aiguilles se renouvellent à jamais ». Donc il y a toujours une espèce de métaphore, même dans ce terme pour les êtres humains, le pain blanc puis les aiguilles sont aussi présentes. C'est des termes où tout est lié. Et voilà, cette structure linguistique, c'est ça, juste la distance du Ganyengehaga et des langues indo-européennes est quasi insondable. On parle d'une langue polysynthétique, agglutinante, potentiellement infiniment. Il y aurait potentiellement une infinité de manières de dire la même chose en s'y prenant différemment. Et il y a aussi, je vais en parler un peu plus loin, des racines verbales, toujours, où les préfixes puis les suffixes vont comme situer le verbe, comme le cadrer ou comme l'arrêter, un peu comme si les noms délimitaient le verbe plutôt que d'avoir le verbe qui active des noms comme une matière inerte qui est activée. Donc, il y a une espèce de... Je peux le voir de manière inversée, mais on se retrouve dans un autre monde entièrement. Voilà. Deuxièmement, je dirais, ce qu'il faut pouvoir traduire, ce serait l'idéologie linguistique. Et ça, en fait, c'est un terme qui est assez courant. Il y a plusieurs anthropologues qui utilisent ce terme-là. Il y avait Himes, qui était un personnage important dans les années 60, qui avait parlé de la détermination culturelle des fonctions sociales de la langue. C'est-à-dire, la langue a aussi une fonction sociale qui est déterminée culturellement et que ça même constitue un terrain de relativisme linguistique, que les langues se diffèrent dans ce sens-là. Et ça avait amené un autre que j'aime bien, Michael Silverstein, qui parle de ces idéologies linguistiques comme étant, c'est ça, nos imaginaires culturels un peu composés de préjugés métasémiotiques, comme il en parle, qui sont vraiment des données culturelles dans la perception même de ce qu'est une langue, de ce qui est important. Et en fait, ça, c'est l'idée de pouvoir traduire une idéologie linguistique, c'est de pouvoir traduire à partir de ce que les locuteurs de la langue autochtone considèrent eux-mêmes comme étant l'aspect prioritaire de leur langue. C'est-à-dire, il y a souvent un préjugé dans les langues européennes d'une approche comme sémantique de la langue, alors que dans d'autres langues, dans le Navajo, par exemple, un anthropologue, Anthony Webster, qui avait travaillé sur la poésie Navajo, puis les poètes disaient vraiment que c'est le son qui importe plus que tout, plutôt qu'un lien signifiant-signifié, c'est vraiment jouer avec le son. Donc, c'est partir de là. Ça mène à l'idée potentiellement que non seulement les différentes conceptions culturelles d'une langue communiquent des réalités plus ou moins différentes, elles créent aussi des réalités différentes. C'est-à-dire, il y a un aspect vraiment de créer une réalité en traduisant. Les idéologies linguistiques affectent l'utilisation et les objectifs de la langue d'une manière qui peut seulement être appréhendée dans sa spécificité par des catégories émises par d'autres cultures, selon Silverstein, justement. Et puis, Silverstein ici pensait surtout à Saussure, qui considérait la langue comme vraiment une espèce de tranche autonome de la réalité, qui était vraiment axée sur les fonctions référentielles, dénotatives, alors que traduire au-delà des idéologies culturelles, ou plutôt à partir des idéologies culturelles, impliquerait d'arriver à quelque chose de plus que des simples équivalences. Et c'est ce que certains, notamment Silverstein, Jacobson déjà utilisait le terme « transmutation » pour parler de la traduction en des langues non-verbales et des langues verbales. Puis Silverstein a un peu radicalisé cette notion-là en parlant de « transduction ». Il réfère en fait au moteur qui va comme convertir un certain type d'énergie en une énergie d'un autre type, qui va transformer du gaz en mouvement. C'est-à-dire, c'est l'éloignement entre les mondes à traduire est de telle nature que la différence entre de l'essence puis le mouvement de roue. Transduction, c'est un peu cette idée de traduire des types d'énergie qui sont entièrement différents avec tous les mondes qui portent. Donc ça mène au troisième aspect dont je pense qu'il faut tenir compte, puis qu'on essaie de tenir compte dans ce livre, qui est l'écologie en tant que telle, d'où une langue émerge. Et ça, surtout, bon, les Autochtones avec qui je travaillais étaient quand même très clairs sur le fait que la langue parle depuis une forme de vie qui est elle-même insérée dans un territoire. Ça, par exemple, pour un mot qui est vraiment central dans le livre, vu que c'est le nom de leur constitution à défaut d'un ou de leur tradition en tant que telle, qui est la Gayanregoa. Traditionnellement, les anthropologues l'ont traduit par la grande loi de la paix, mais en parlant, puis ça a été des longues discussions avec les gardiens du savoir, pour qu'en fait, ils montrent qu'il y avait plutôt l'idée d'un chemin, d'un sentier, puis de traces de pas qui étaient dans le Yanere, qui est dans Gayanregoa. Et donc ça se retrouve aussi dans les mots pour les chefs et les maires de clans, Royaner et Yagoyaner, qui voudraient dire plutôt que chef, celui qui a un chemin ou celle qui a un chemin ou celui qui a des traces de pas sur lesquelles se fonder. Puis même le mot en fait pour bon, il y a plusieurs mots pour bon en fait, bon et grand, c'est pour ça que le Gayanregoa c'est le grand et bon chemin. Dans cette idée d'un chemin, le chemin est bon en soi déjà. Parce que ce terme « yoyanere » qui veut dire « bon », et c'est ça, c'est comme la bonté, c'est d'avoir un chemin et des traces de pas à suivre. C'est ça qui sont des notions de tradition, mais qui émergent vraiment d'une pratique dans le territoire en tant que tel. Et donc ça m'amène en particulier Viveiros de Castro, l'anthropologue brésilien, qui a amené une théorie assez intéressante de la traduction, qui se rapproche quand même de la transduction, mais qui lui appelle l'équivoque contrôlé, controlled equivocation, qui vraiment essaie d'aborder l'incommensurabilité entre les langues de front pour trouver des méthodes de traduction qui conserveraient la différence entre les langues plutôt que de les annuler à travers l'équivalence. Ça, en fait, ça vient, il y a une théorie plus générale du perspectivisme chez Viveiros de Castro, que lui identifie dans son travail sur la pensée amazonienne, autochtone en Amazonie, où, bon, là-dessus, sur le perspectivisme, il dit « La différence entre les êtres humains et non-humains réside non pas que les humains et les non-humains partagent une même culture, selon les Amazoniens, selon Viveiros de Castro, partagent une même culture, mais ont des natures différentes. C'est-à-dire, c'est comme leur corps qui diffère, c'est les habits des êtres qui diffèrent, leur monde en tant que tel, et non pas leur culture. Donc, la différence ne se trouve pas dans la culture, mais dans la nature. Et il applique cette notion-là à la traduction culturelle pour suggérer que des concepts qui sont plus ou moins homonymes, qui peuvent être traduits assez facilement dans différentes langues, gardent quand même une altérité par rapport à ce à quoi ils font référence, si on tient compte de toute l'écologie qui porte ces langues-là. Les concepts culturellement, ils peuvent être équivalents les uns aux autres, mais en fait, c'est l'ensemble de la culture elle-même qui diffère de par sa nature. C'est la nature du monde auquel ils font référence qui est différent. Donc ça radicalise encore plus l'hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle des langues différentes coïncident avec des mondes différents. Ça, c'est pris au pied de la lettre pour esquisser une sorte de plurivers où l'incommensurabilité entre les termes apparaît comme une condition préalable à leur comparaison. Le dialogue est possible à travers la différence, en reconnaissant cette différence entre les mondes desquels il parle. Donc ça le mène à penser à une traduction ou à une transduction qui intégrerait la non-identité, la différence dans le produit final en opérant, comme il dit, l'inversion du négatif en positif. Donc, c'est comme la différence même qui devient une valeur positive. Donc, plus l'éloignement d'un concept à notre propre culture est comme affiché, plus, par exemple, une glose est comme galvaudée puis il y a plein d'espèces de traits d'union, ben plus peut-être on arrive un peu à saisir à quel point c'est différent ce dont on parle. Ça, par exemple, il y a un mot qu'on a tenté de traduire là, qui est Dewatatewaniyo. On a déjà parlé quelques fois. Ce terme-là, en fait, c'est eux-mêmes vont le traduire par « nous sommes tous libres » et parfois, comme on se soutient tous nous-mêmes. Mais après, en parlant avec eux, on a comme décortiqué le mot pour voir que là-dedans, il y a comme la racine pour dire, parler du monde naturel comme « c'est ainsi que sont les choses ». C'est le « tignot », « c'est ainsi ». Donc, il y a comme ce que ça dit dans le fond, puis ça commence avec le préfixe « tewa » qui regroupe absolument tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de préfixes en Ganyangeha, 84 préfixes relationnels. Tout est relationnel, vraiment n'importe quel même objet dans le monde a une espèce de son pronom, là, est décrit dans un tissu de relation. Puis beaucoup de ces pronoms-là aussi, ben, en fait, moi j'y vois un usage, justement, une écologie de l'assemblée là, qui est très importante chez eux, vu qu'il y a plein de préfixes pour dire, par exemple, « tout le monde sauf moi » ou « tout le monde sauf toi » ou des trucs comme ça, ou « juste nous deux ». Tu sais, il y a comme plusieurs petits groupes, comme des caucus qui peuvent se créer dans le nom des choses. Mais donc, le « dewa » de « dewadadewenio », c'est le plus inclusif de tous ces pronoms-là, qui est absolument tout est intégré dedans. Et donc, c'est ça ce que ça voudrait dire plutôt après plusieurs discussions. C'est quelque chose comme « il est dans l'essence même des choses que tous les êtres accomplissent leurs devoirs vis-à-vis de la création d'une manière libre, ou un truc comme ça, avec plein de traits d'union. C'est-à-dire, il faut que même les insectes librement fassent ce qu'ils font, accomplissent leur essence, sinon ils ne le feraient pas. Puis on est aussi libre que les insectes le sont, par exemple. Ce qui me paraîtrait contre-intuitif, mais c'est vraiment ça leur philosophie de la chose. Et donc, je reviendrai à Lafito pour parler de cette possibilité de glose puis de transduction. Il y a une autre citation à la fin du livre où il parle de sa propre compréhension de la différence entre les langues iroquoiennes et les langues européennes, où il disait « les Iroquois n'ont proprement que des verbes qui forment leur base, de sorte que tout se conjugue et que rien ne se décline », dont j'ai parlé un peu. Ça, il y a d'autres linguistes. Marianne Mitoun, qui est une linguiste des langues iroquoiennes, une des principales, là, qui nuance un peu cette suggestion-là en disant qu'il y a des noms en Ganyangeha, mais il limite la portée des verbes sur le plan sémantique plutôt que l'inverse, plutôt que ce soit les noms qui activent les verbes. Et donc, en ce sens, avec tous ces préfixes et suffixes pronominaux qui font du Ganyangeha une langue si malléable, les noms qualifient les verbes au lieu que les verbes mettent en mouvement. Des noms essentiellement inertes, comme dans les langues européennes. Puis ça, c'est aussi, cette priorité des verbes, c'est aussi dans l'idéologie linguistique de mes amis Ganyangeha. Ils en parlent aussi comme d'une langue en mouvement. Ils disent qu'ils ont des exercices entre eux. Parfois, ils vont chercher les racines, les phonèmes de mots pour se souvenir de la signification, surtout des vieux mots qui sont très longs. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, on va comme le briser en morceaux, puis ça va suggérer, ça va faire apparaître des images, ils disent, dans leur tête. Mais c'est au moment où toutes les images sont présentes que les images vont se mettre en mouvement. Puis ils disent vraiment dans leur tête, c'est comme s'il y avait une projection dans leur tête. C'est comme voir un film. Ils voient un mouvement. Puis tous leurs noms propres aussi, nomment ces mouvements-là, nomment un espèce de devenir qui est aussi comme leur fonction sociale. Les enfants sont nommés vraiment avec une espèce d'intention. Cet enfant-là va avoir ce rôle-là. On voit déjà qu'il est en train de développer ses traits de caractère. Ça va être la personne qui va faire tel truc, machin, tout ça. C'est toujours une espèce de mouvement. Et donc, dans la mesure où une telle langue semble diamétralement opposée à la tendance occidentale à isoler des noms passifs avant de les faire animer par une espèce de volonté verbale divine, au commencement était le verbe, les implications sociales, relationnelles et écologiques, la différence entre une conjugaison non hiérarchique et une déclinaison descendante de type latine impériale, pour moi, mérite d'être explorée plus avant, même si ça exige d'écrire de très longs livres et de traduire un seul mot par quatre paragraphes. Et donc, voilà.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.